Chapitre 12. Le lendemain de cette représentation où elle avait voulu se montrer et sourire sous son désastre, donner aux femmes de la société une suprême leçon de tenue, la duchesse Padovani était partie pour Mousseau, selon son habitude à cette époque de l'année. Rien de changé aux apparences de sa vie. Ses invitations faites pour la saison, elle ne les commanda pas. Mais avant l'arrivée de la première série, durant cette solitude de quelques jours qu'elle employait d'ordinaire à surveiller minutieusement l'installation de ses hôtes, ce fut du matin au soir, dans ce parc de Mousseau, vallonnant à perte de vue les coteaux de la Loire, une course furieuse de bêtes blessées, traquées, qui s'arrêtaient un moment, engourdies de fatigue, puis repartaient sous une poussée de douleur. Lâche, lâche, canaille! Elle invectivait l'absent comme s'il était à côté d'elle, comme s'il marchait du même pas fiévreux dans ce tournoiement d'allées vertes descendant jusqu'au fleuve en long et l'ombreux à lacets. Et plus duchesse ni mondaine, démasquée, humaine enfin, elle livrait tout son désespoir, moins grand peut-être que sa colère, car l'orgueil criait en elle plus fort que tout, et les quelques larmes débordant ses cils ne coulaient pas, jaillissaient, grésillaient en pointe de feu. Se venger, oui, se venger. Elle cherchait un moyen sanglant, et tantôt imaginait un de ses gardes, Bertoli ou Salviato, allant lui-même mettre une chevrotine dans le front le jour même du mariage. Puis non, frapper soi-même, sentir la joie de la vendetta au bout de son bras. Elle enviait celle du peuple qui guette l'homme sous une porte, lui envoie par la figure une potée de vitriol dans un vomissement de mots épouvantables. Oh, pourquoi n'en connaissait-elle pas de ces abominations qui soulagent une ignoble injure à crier aux traîtres et vifs compagnons qu'elle voyait toujours avec le regard hésitant, le sourire faux et pénible de leur dernière rencontre. Mais même dans son patois corse de l'île Rousse, la patricienne ne savait pas de ses vilenies, et quand elle avait bien crié « Lâche, lâche, canaille !» sa belle bouche se tordait de rage impuissante. Le soir, après son repas solitaire dans l'immense salle tendue de vieux cuir que dorait le soleil mourant, la course de fauves recommençait. C'était, dans la galerie à pic sur le fleuve, si curieusement restaurée par Paul Astier avec la dentelle ajourée de ses arcades et ses deux jolies tourelles en encorbellement. En bas, la Loire, étalée comme un lac, gardait du jour tombé un palissement d'argent fin où s'espaçaient vers Chaumont les soleils, les îlots de sable du fleuve lent à la molle atmosphère. Mais elle ne regarde pas le paysage, la pauvre Marianto, quand, fatiguée d'errer sur les pas de son chagrin, elle s'appuyait des deux coudes à la rampe, les yeux perdus. Sa vie lui apparaissait dévastée, en détresse, et à un âge où il est difficile de la recommencer. Des voix grêles montaient de Mousseau, groupant quelques maisons basses sur la levée. La barre d'un bateau grinçait dans la nuit fraîchissante. Comme c'eût été facile, rien qu'en accentuant un peu son mouvement découragé, jeté en avant, mais que dirait le monde? Ah, son âge, une femme de son rang, se suicide de grisette abandonnée. Le troisième jour arriva le billet de Paul, et en même temps, dans les journaux, le procès-verbal circonstancié du duel. Elle en eut comme la chaleur joyeuse d'une étreinte. Quel calme est donc encore, qui avait voulu la venger au prix de sa vie. Et cela ne signifiait pas l'amour à ses yeux, mais seulement une affection reconnaissante, le souvenir des services rendus à ce jeune homme et aux siens, peut-être aussi le besoin de réparer la traîtreuse attitude de la mère. Noble enfant, brave enfant. À Paris, elle serait allée vers lui tout de suite, mais ses invités s'annonçant, elle ne put que lui écrire, envoyer son médecin. D'heure en heure, les arrivages se succédaient par Blois, par Onzain, Mousseau, se trouvant à égale distance des deux stations. Et le landau, la calèche, deux grands breaks déposés au perron de la cour d'honneur où retentissaient les coups de timbre, d'illustres habitués de la rue de Poitiers, académiciens et diplomates, le comte et la comtesse de Faudère, les Bretigny, comte et vicomte, celui-ci secrétaire d'ambassade, M. et Mme Desminières, le philosophe Lamboire venant d'écrire au château son rapport sur les prix de vertu, le jeune critique de Chalais, très poussé par le salon Padovani, et d'Anjou, le beau d'Anjou, tout seul, sans sa femme, invité cependant, mais qui l'eût gêné pour les projets qu'il roulait sous les frisures d'un breton tout neuf. Aussitôt l'existence s'organisa comme aux années précédentes. Le matin, les visites ou le travail dans les chambres, les repas, la réunion, les siestes, puis, la chaleur tombée, de grandes courses en voiture à travers bois ou sur le fleuve dans la légère flottille amarrée au bout du parc. On lâchait dans une île, on allait en partie relever les verveux toujours garnis et frétillants. Le garde-pêche y reçoit la veille de chaque expédition de les charger à plein filet. En rentrant, la toilette pour le dîner en grand apparat, après lequel les hommes, ayant fumé au billard ou dans la galerie, venaient au merveilleux salon qui fut l'ancienne salle du conseil de Catherine de Médicis. Les tapisseries y déployaient tout du long les amours de Didon et son désespoir devant la fuite des galères troyennes. Étrange et ironique actualité que personne ne remarquait du reste, par cette incuriosité des formes extérieures si générales dans le monde, et qui résulte moins d'une maladresse des yeux que de la constante et exclusive préoccupation de soi, de la tenue à garder, de l'effet produit. Le contraste était pourtant saisissant des tragiques fureurs de la reine abandonnée, les bras levés, les yeux en pleurs, dans l'effacement du petit point, au calme souriant dont la duchesse présidait les réunions, gardant sa souveraineté sur les femmes présentes dont elle régentait les toilettes, les lectures, se mêlant aux discussions de la Riboire avec le jeune critique, au débat de Desminières et de d'Anjou sur les candidatures du fauteuil Oisillon. Vraiment, si le prince d'Athis eût pu la voir, ce traître Sabie auquel ils pensaient tous et dont personne ne parlait, son orgueil aurait souffert du peu de vide laissé par son absence dans cette existence de femme, non plus qu'en cette royale maison de Mousseau, agitée et bruyante où, du haut en bas de la longue façade, trois persiennes seulement restaient closes dans ce qu'on appelait le pavillon du prince. Elle prend bien ça, se disait d'Anjou dès le premier soir. Et la petite comtesse de Faudère, son bout de nez pointu tout affairé de curiosité dans un embobelinage de dentelle, la sentimentale Madame Desminières, préparée aux doléances, aux confidences, n'en revenait pas d'un si beau courage. Au fond, elle lui en voulait comme du relâche d'un spectacle dramatique très attendu. tandis que pour les hommes, cette sérénité de l'Ariane semblait un encouragement à la succession ouverte. Et c'était le changement significatif dans la vie de la duchesse, l'attitude de tous ou de presque tous avec elle, attitude plus libre, plus pressante, une ardeur à lui plaire, un pavanement autour de son fauteuil qui visait directement la femme et non plus son influence. C'est vrai que jamais Marie-Antonia n'avait été plus belle. Son entrée dans la salle à manger, l'éclat mat de son teint, de ses épaules en clair décolletage d'été, illuminait la table autour d'elle, même quand la marquise de Locaneva se trouvait là, venue de son château voisin de l'autre rive de la Loire. La marquise était plus jeune, mais qui aurait pu s'en douter en les regardant. Puis la belle Antonia devait au brusque départ de son amant le charme inavouable, la majestueuse griffe du diable, cet attrait de la plage chaude auquel tant d'hommes se laissent prendre. Le philosophe Lariboire, rapporteur des prix de vertu, le subissait violemment, ce mystérieux et vilain attrait. Veuve, d'âge mûr, la joue violacée, les traits mélancoliques, il essayait de subjuguer la châtelaine par un déploiement de grâce virile et sportique qui lui valait quelques mésaventures. Un jour, en bateau, voulant manier la godille à grand renflement de biceps, il tombait dans la Loire. Une autre fois, qu'il caracolait à la portière du Tarando, sa bête le serrait si durement contre la roue qu'on était obligé de le garder et cataplasmer à la chambre plusieurs jours. Mais c'est au salon qu'il faisait beau le voir, danser devant l'arche, selon le mot d'Anjou, ployer et dérouler son grand corps, appeler au combat singulier de dialectique le jeune critique, pessimiste farouche, âgé de 23 ans, que le vieux philosophe écrasait de son optimisme imperturbable. Il avait ses raisons pour trouver la vie bonne, et même excellente, le philosophe Lariboire, dont la femme était morte d'une angine gagnée au chevet de ses enfants, emportés tous les deux avec la mère. Et toujours dans son dithyrambe en faveur de l'existence, le bonhomme terminait l'exposé de ses doctrines par une sorte de démonstration au tableau, un geste adulateur vers le corsage en demi-peau de la duchesse. Mais trouvez donc la vie mauvaise devant ces épaules-là. Le jeune critique, lui, faisait sa cour d'une façon plus subtile, pas mal scélérate même. Grand admirateur du prince d'Athis, encore à l'âge ingénu, qui traduit l'admiration par l'imitation, il copiait dès son entrée dans le monde les attitudes, la démarche, jusqu'aux airs de tête de Samy, son dos en voûte, son sourire vague et fermé de méprisant silence. Maintenant, il accentuait cette ressemblance de détails de toilette, guetté, ramassé enfantinement depuis la manière d'épingler la cravate dans l'évasement du col jusqu'au carré fauve d'un pantalon de coupe anglaise. Trop de cheveux, malheureusement, et pas un poil de barbe, d'où ses efforts perdus et l'absence de tout revenez-y troublant chez l'ancienne maîtresse du prince, aussi indifférente à son carrelage anglais qu'aux mourantes œillades de Bretigny le fils ou aux pressions vigoureuses de Bretigny le père quand il lui prenait le bras pour aller à table. Seulement, cela entretenait autour d'elle cette atmosphère tiède, empressée, galante, à laquelle Dathis l'avait longtemps habituée, jouant jusqu'à la courbature son personnage d'attentif, et l'orgueil de la femme sentait moins la déchéance de l'abandon. Parmi tous ses prétendants, d'Anjou gardait une attitude à l'écart, amusant la duchesse de ses potins de coulisses, la faisant rire, ce qui, avec certaines, réussit quelquefois très bien. Puis, quand il jugea la femme suffisamment préparée, un matin, qu'elle commençait en compagnie de ses chiens sa promenade solitaire à travers le parc, cette course violente où elle secouait sa colère dans les taillis pleins de réveils d'oiseaux, la trempait, l'apaisait dans la mouillure des pelouses et l'égouttement des branches, brusquement, un tournant d'allée, il se montra et tenta le coup. En complet de laine blanche, le pantalon dans la botte, béret basque, la barbe faite, il cherchait le dénouement d'une pièce en trois actes que les Français lui demandaient pour l'hiver. Titre « Les apparences », sujet mondain, très dur. Tout écrit, excepté sa dernière scène. « Eh bien, cherchons ensemble, » dit-elle gaiement, en claquant la longue lanière à manches courtes et sifflet d'argent dont elle se servait pour rallier sa meute. Mais, dès les premiers pas, il parla d'amour, de la tristesse qu'il y aurait pour elle à vivre seule, s'offrit enfin carrément, cyniquement, à la d'Anjou. La duchesse, redressée d'un fier et vif mouvement de tête, serrait le manche du petit fouet à chien, prête à cingler l'insolent qui osait la traiter comme une marcheuse derrière un portant d'opéra. Mais l'outrage à sa dignité était un hommage à sa beauté sur le retour, et dans la rougeur subite de ses joues montait autant de plaisir que d'indignation. Lui, pourtant, continuait, la pressait, tâchait de l'éblouir de ses mots à facettes, affectant de traiter la chose moins en affaire de cœur qu'en alliance d'intérêt, en association cérébrale. Un homme comme lui, une femme comme elle, mais à eux deux, ils tiendraient le monde. Non, merci bien, mon cher d'Anjou. Oh, ces beaux raisonnements, je les connais. J'en pleure encore. Et d'un geste hautain, sans réplique, qui montrait à l'auteur l'ombreuse allée à suivre. Cherchez votre dénouement. Moi, je rentre. Il restait sur place, déconcerté, la regardant partir de sa belle démarche à jambes longues, si tentante. « Pas même comme zèbre ?» demanda-t-il plaintivement. Elle se retourna, ses noirs sourcils rejoints. « Ah oui, c'est vrai, le poste est vacant. » Elle songeait à ce laveau, à ce bas subalterne à qui elle avait fait tant de bien. Et sans rire, d'une voix lasse, « Ben, comme zèbre, si vous voulez. » Puis elle disparut derrière un bosquet de roses jaunes, superbes, trop épanoui, dont le premier souffle un peu vif allait éparpiller les grappes. C'était déjà bien beau qu'elle l'eût écouté jusqu'au bout, la fière Marianto. Jamais, probablement, aucun homme, pas même son prince, ne lui avait parlé sur ce ton. Plein d'espoir et d'entrain, secoué par les belles tirades qu'il venait d'improviser, l'auteur dramatique ne fut pas long à trouver sa dernière scène. Il remontait pour l'écrire avant le déjeuner, quand il s'arrêta, saisi de voir entre les branches les fenêtres du prince larges ouvertes au soleil. Mais pour qui ? À quel favorisé faisait-on l'honneur de cette installation somptueuse et si commode avec ses ouvertures sur la Loire et sur le parc ? Il s'informa, se rassura, c'était pour l'architecte de madame la duchesse, venue en convalescence au château. Étant connus les liens d'intimité qui unissaient les Astiers et la châtelaine, quoi de plus naturel que Paul fût reçu comme l'enfant de la maison dans ce mousseau, un peu son œuvre. Pourtant, quand le nouvel hôte vint s'asseoir au déjeuner, sa jolie figure affinée, que le blanc d'un fichu de Chine pâlissait encore, son duel, sa blessure, l'idée romanesque autour de ces choses, parut faire une si vive impression sur les femmes, la duchesse elle-même le favorisait de tant de soins, d'égards affectueux, que le beau d'Anjou, un de ces terribles absorbeurs à qui tout succès rival semble un dommage et presque un vol, sentit comme une morsure jalouse. Les yeux dans son assiette, profitant de sa place d'honneur, il commença à voix basse un démolissage du joli jeune homme si malheureusement déparé par le nez de sa mère. Il raillait son duel, sa blessure, ses réputations de sale d'armes qu'une piqûre de gonfle à la première rencontre. Et il ajouta, ne croyant pas si bien dire, « Une frime, vous savez, leur querelle de jeu, c'est pour une femme. »« Le duel, vous croyez ?» Il fit signe de la tête. « Oui, j'en suis sûr !» Et ravi de sa prodigieuse astuce, s'occupa de la table qu'il éblouit de mots, d'anecdotes, dont il arrivait toujours pourvu comme d'un petit feu d'artifice de poche. À ce jeu, Paul Astier n'était pas de force. Et la sympathie féminine revint vite à l'illustre causeur, surtout quand il eut annoncé que son dénouement était trouvé, sa pièce finie, et qu'il la lirait au salon pendant les heures de chaleur. Il n'y eut qu'un cri de toutes ces dames pour acclamer cette diversion rare à la monotonie des journées. Et quelle aubaine pour ces privilégiés, déjà si fiers de leurs lettres datées de Mousseau, d'envoyer à toutes les bonnes amies absentes le compte-rendu d'une pièce inédite de Danjou, lue par Danjou lui-même, puis de pouvoir dire cet hiver au moment des répétitions « Oh, la pièce de Danjou, je la connais, il nous l'a lue au château !» Comment on quittait la table dans l'effervescence de cette bonne nouvelle, la duchesse s'approcha de Paul Astier, lui prenant le bras avec sa grâce un peu despotique. « Un tour de galerie, on étouffe !» L'air était lourd, même à ces hauteurs où la Loire, comme étamée, envoyait une buée de cuves chaudes. Épandue et noyant de désordre vert de ses rives et de ses îlots à demi submergés. Elle entraîna le jeune homme tout au bout de la dernière arcade, loin des fumeurs, et lui pressant les mains. « Si c'est moi, c'est pour moi ?»« Oui, pour vous, duchesse. » Et il ajouta à la lèvre mince. « Bon, c'est pas fini, nous recommencerons. Voulez-vous bien vous taire, malheureuse enfant ?» Elle s'interrompit à l'approche d'un paraudeur et curieux d'Anjou. « Duchesse, mon éventail que j'ai laissé à ma place dans la salle, voulez-vous, soyez gentil. » Et quand il fut loin, « Je vous défends, Paul. D'abord, on ne se bat pas avec un pareil misérable. » « Oh, si nous étions seuls, si je pouvais vous dire !» Il y avait dans l'énervement de sa voix et de ses mains un transport dont Paul Astier s'étonna. Au bout d'un mois, il espérait la trouver plus résignée. Ce fut une déception qui lui coupa un irrésistible « Je vous aime, je vous ai toujours aimé !» préparé pour les premières explications de l'arrivée. Alors il se contentait de lui raconter le duel, dont elle semblait très curieuse, quand l'académicien rapporta l'éventail. « Bon, c'est beau d'Anjou, » dit-elle en remerciement. L'autre eut un petit tournement de bouche, et sur le même ton, à mi-voix. « Oui, mais promesse d'avancement, sans quoi ? Des exigences, déjà ?» Elle le corrigeait d'un léger coup d'éventail, et le voulant de bonne humeur pour sa lecture, revint à son bras dans le salon où le manuscrit s'étalait à même une coquette table à jeu dans le jour direct d'une haute fenêtre entr'ouverte sur les verdures fleuries, les grandes masses boisées du parc. Les apparences, pièce en trois actes. Personnages, toutes les femmes en cercle le plus près possible, eurent ce joli pelotonnement frileux, ce frisson que leur donne l'attente du plaisir. D'Anjou lisait en vrai cabotin de Picheral, prenait des temps pour s'humecter les lèvres au bord de son verre d'eau, les essuyait d'un léger mouchoir de batiste, et chaque page, finie, haute et large, brouillée de sa toute petite écriture, il la laissait tomber négligemment à ses pieds sur le tapis. Chaque fois, Madame de Fondeur, l'étrangère pour homme célèbre, se penchait sans bruit, ramassait la feuille tombée, la posait avec vénération sur un fauteuil à côté d'elle, bien dans le sens. Discret et délicieux manège qui la rapprochait du maître, la mêlait à son œuvre, comme si Liszt ou Rubinstein étaient au piano et qu'elle tournât les feuillets de la partition. Tout alla bien jusqu'à la fin du premier acte, amusante et chatoyante exposition qu'accueillait un délire de petits cris, de rires extasiés, de bravos enthousiastes. Puis, après un grand silence dans lequel on entendait aux profondeurs du parc la rumeur bourdonnante et vibrante des moucherons en haut des arbres, le lecteur reprit en s'essuyant la moustache. Acte 2. La scène représente... Mais sa voix s'altérait, s'étranglait de réplique en réplique. Il venait d'apercevoir un fauteuil vide au premier rang. Parmi les dames, justement le fauteuil d'Antonia. Et son œil cherchait, par-dessus le lorgnon, dans l'immense salon rempli d'arbustes verts de paravent, où des auditeurs s'abritaient pour mieux écouter ou pour mieux dormir. Enfin, dans un de ces temps fréquents et méthodiques que son verre d'eau lui ménageait, un chuchotement, la lueur d'une robe claire et tout au fond, sur un divan, la duchesse lui apparut à côté de Paul Astier, continuant la conversation interrompue dans la galerie. Pour un enfant gâté de tous les succès comme d'Anjou, l'outrage était sensible. Il eut pourtant le courage de continuer son acte, jetant avec fureur sur le tapis les pages qui volaient, forcer la petite de Fondeur à les rattraper à quatre pattes. À la fin, comme les chuchotements ne se taisaient pas, il cessa de lire, s'excusant sur un enrouement subit qu'il objet à remettre au lendemain. Et tout à ce duel dont elle ne se lassait pas, la duchesse, croyant la pièce finie, criait de loin avec un vif mouvement de ses petites mains. « Bravo d'Anjou, très joli, le dénouement !» Le soir, le grand homme eut ou prétexta une crise de foi et quitta Mousseau à l'aurore, sans revoir personne. Fût-ce un simple dépit d'auteur? Croyait-il réellement que le jeune Astier allait remplacer le prince? En tout cas, 8 jours après son départ, Paul en était encore à glisser une parole tendre. On se montrait avec lui, tout en égard, en attention presque maternelle, on s'informait de sa santé, s'il ne faisait pas trop chaud dans la tourelle exposée au midi, si le mouvement du landau ne le fatiguait pas, ou encore s'il n'était pas resté trop tard sur la rivière. Mais dès qu'il essayait un mot d'amour, on s'échappait vite, sans comprendre. Il y avait loin cependant de la fière Antonia, des précédentes saisons à celles qu'il retrouvait. L'autre, hautaine et calme, remettant les indiscrets à leur rang, rien que d'un froncement de sourcils. La sécurité d'un beau fleuve entre ses digues. Maintenant, la digue craquait, laissait deviner une fêlure par où débordait la vraie nature de la femme. Il lui passait des bouffées de révolte contre les usages, les conventions sociales autrefois si bien respectée par elle, et des besoins de changer de place, de s'éreinter en courses extravagantes. Des projets de fêtes, d'illumination, de grandes chasses à cours pour l'automne, qu'elle-même conduirait, qui depuis des années n'était pas montée à cheval. Attentif, le beau jeune homme guettait les écarts de cette agitation, surveillait tout de son œil aigu des mouchets, bien décidé par exemple à ne pas lanterner 2 ans comme avec Colette de Rosen. On s'était séparé de bonne heure ce soir-là après une fatigante journée de voiture et d'excursion. Paul remontait chez lui, défublé de l'habit du plastron en chemise de soie, ses pantoufles, un bon cigare, écrivait à sa mère, cherchant et pesant tous ses mots. Il fallait persuader un moment, en villégiature à Clos-Jallanges, et se brûlant les yeux à chercher sur l'horizon, par-delà les tournants du fleuve, les 4 tourelles de Mousseau, qu'il n'y avait pas de réconciliation même d'entrevue possible pour le moment entre elle et son amie. Merci bien, trop gaffeuse la bonne femme. Il l'aimait mieux loin de ses affaires personnelles. Lui rappelait aussi la traite fin courant et sa promesse d'envoyer les fonds aux braves petits Stiennes restés seuls rue Fortuny pour défendre l'immeuble Louis XII. Si l'argent de Samy manquait encore, emprunter au Frédéric, qui ne refuserait pas cette avance de quelques jours, puisque le matin même les journaux de Paris, dans leur correspondance étrangère, annonçaient le mariage de notre ambassadeur à Pétersbourg, mentionnant la présence du grand-duc, les toilettes de la mariée et le nom de l'évêque polonais qui avait béni les 2 époux. Aimant, on pouvait se figurer si à Mousseau, le déjeuner s'était ressenti de cette nouvelle que chacun connaissait, que la maîtresse du logis lisait dans tous les yeux et dans l'affectation de ses invités à parler d'autre chose. Silencieuse tout le repas, la pauvre duchesse, en sortant de table, et malgré l'horrible chaleur, avait éprouvé le besoin de se secouer et d'emmener tout son monde en 3 voitures au château de la Poissonnière où naquit le poète Ronsard. 6 lieues de route au soleil, dans la poussière blanche et craquante, pour la joie d'entendre la foule arriver, hissé sur un vieux socle, effrité comme lui, débité. « Mignonne, allons voir si la rose !» Au retour, visite à l'orphelinat agricole fondé par le vieux Padovani. Maman devait connaître sans doute. Inspection du dortoir, de la buanderie, des instruments oratoires, des cahiers de classe. Et ça empoisonnait, et il faisait chaud. Et la rivoire haranguait les jeunes agriculteurs à pauvres têtes de forçat, leur affirmant que la vie était excellente. Pour finir, encore une halte exténuante à dos au fourneau près d'Onzin. 1 heure au chaud soleil déclinant, dans la fumée l'odeur du charbon, vomi par 3 énormes tours bricolées, à buter sur les rails et à éviter les wagonnets et les pelles chargées de fonte incandescente, en blocs énormes goûtant du feu comme des quartiers de glace vermeille en train de fondre. Pendant ce temps, la duchesse, entraînée, infatigable, ne regardait rien, n'écoutait rien, marchant au bras de Bretigny, le père, avec qui elle semblait discuter violemment, mais aussi étrangère aux forges et aux fourneaux qu'au poète Ronsard ou à l'orphelinat agricole. Paul en était là de sa lettre, s'appliquant surtout, pour diminuer les regrets de sa mère, à une peinture férocement ennuyeuse de la vie à Mousseau cette année, quand un léger coup loqua la porte. Il pensa au jeune critique, au fils Bretigny, même à Lariboire, très agité, depuis quelque temps, qui prolongeait souvent la soirée dans sa chambre la plus vaste, la plus commode, annexée d'un coquet fumoir, et fut très étonné, ayant ouvert, de voir la longue galerie du premier étage, dans l'irisement de ses vitraux, silencieuse et vide jusqu'au fond, jusqu'à la massive porte de la salle des gardes dont un rayon de lune découpait les sculptures. Il retourna s'asseoir, mais on frappa encore. Cela venait du fumoir qu'une petite porte sous tenture, par un étroit couloir dans l'épaisseur de la tour, mettait en communication avec les appartements de la duchesse. Cet aménagement, bien antérieur à la restauration de Mousseau, lui était inconnu. Et tout de suite, rappelant certaines conversations entre hommes ces derniers jours, surtout les histoires terriblement salées du père Larivoire, Bigre, si elle nous a entendus, se dit le joli gouailleur. Le verrou tiré, la duchesse passa devant lui sans un mot, et posant sur la table où il écrivait une liasse de papier jauni que froissait nerveusement sa main fine, « Conseillez-moi, dit-elle, la voix grave, vous êtes mon ami, je n'ai confiance qu'en vous, qu'en lui, malheureuse femme. » Et ce regard de proie, sournois, guetteur, ne l'avertissait pas, parlant de la lettre imprudemment restée ouverte sur la table et qu'elle aurait pu lire, à ses beaux bras découverts sous le grand peignoir de dentelle, à ses lourdes nattes tordues pour la nuit. Il pensait, mais que veut-elle? Mais qu'est-ce qu'elle vient chercher? Et elle, tout à sa colère, à ce remous furieux de rancune qui l'étouffait depuis le matin, haletait très bas en phrases courtes. « Quelques jours avant votre arrivée, il m'a envoyé Lavaux, où il a osé, pour me demander ses lettres. Oh, je l'ai reçu, la face plate a lui ôté le goût de revenir. Mais ses lettres, alors donc, c'est ceci qu'il voulait. » Elle lui tendait la liasse, histoire et dossier de leur amour, la preuve de ce que cet homme lui coûtait, de ce qu'elle avait payé pour lui en le tirant de la boue. Vous prenez, regardez, c'est curieux, allez. Et pendant qu'il feuilletait ces paperasses bizarres imprégnées de son odeur à elle, mais plutôt dignes de la devanture de Boss, des factures hypothétiques de marchands de curiosités, bijoutiers en chambre, lingères, constructeurs de yachts, courtiers en vin de Touraine champanisés, des traites de 100 000 francs à des filles fameuses, mortes, maintenant disparues, ou richement mariées, des reçus de maîtres d'hôtel, de garçons de cercle, toutes les formes de l'usure parisienne et d'une liquidation de viveurs. Marie-Antonie grondait sourdement. Plus cher que Mousseau, vous voyez la restauration de ce gentilhomme. Moi, j'avais ça dans un chiffonnier depuis des années, parce que je garde tout, mais je jure Dieu que je ne comptais pas m'en servir. À présent, j'ai changé d'idée. Le voilà riche. Eh bien, je veux mon argent et l'intérêt de mon argent. Sinon, je plaide. N'ai-je pas raison? Oh oui, 100 fois raison seulement. Il effilait la pointe fauve de sa barbe. Est-ce que le prince d'Athis n'était pas interdit quand il avait signé ses traites? Oui, oui, je sais. Brétigny m'a dit. Car ne pouvant rien par Lavaux, on a écrit à Brétigny pour lui demander son arbitrage. Entre académiciens, n'est-ce pas? Elle eut un rire de mépris qui mettait l'ambassadeur et l'ancien ministre au même niveau comme titres académiques. Puis, dans un éclat indigné, oh, certainement, j'aurais pu ne pas payer, mais je le préférais plus propre, donc je n'ai que faire d'un arbitrage. J'ai payé et qu'on me rembourse. Ou alors, en justice et du scandale et de la boue sur son nom, sur son titre d'envoyé de France à Pétersbourg. Que je déshonore ce misérable. Ma cause sera toujours assez gagnée. C'est égal, dit Paul Astier, reposant la liasse et faisant disparaître la lettre en manque qui le gênait. C'est égal qu'on vous ait laissé de telles preuves entre les mains, et quelqu'un d'aussi habile. Habile, lui ? Tout ce qu'elle ne dit pas était dans son haussement d'épaule. Il continua, s'amusant à la pousser, car enfin, on ne sait jamais jusqu'où peut aller le délire rancunier d'une femme. Pourtant, un de nos meilleurs diplomates... Mais c'est moi qui le grimais. Il sait du métier que ce que je lui en ai appris. Mais alors la légende de Bismarck, qui n'a jamais pu le regarder en face. Ah, la bonne histoire, je crois bien. On se détourne quand il vous parle. Une bouche d'égout. Comme honteuse, elle mit sa figure dans ses mains, comprimant des sanglots, un râle furieux. Dire, dire, 12 ans de ma vie à un tel homme. À présent, il me quitte, il veut plus. Et c'est lui, lui. Son orgueil se révoltait à cette idée, et marchant à grands pas dans la chambre, allant jusqu'au lit large et bas, drapé d'anciennes tentures, puis revenant au cercle lumineux de la lampe, elle cherchait les motifs de leur rupture, se demandant tout haut, mais pourquoi, pourquoi ? L'ambiguïté de leur situation. Mais ils savaient bien que cela allait finir, qu'ils seraient mariés avant un an. La fortune, les millions de cette Pécor, oh, comme si elle n'en avait pas, elle aussi, de la fortune. Et les relations, les influences qui manquaient à la Sauvadon. Alors quoi, la jeunesse ? Elle eut un rire enragé. Ah, la pauvre petite ! Pour ce qu'il en ferait de sa jeunesse ! Oh, je m'en doute, murmura Paul qui souriait et se rapprochait. C'était cela le point douloureux. Elle y appuyait comme exprès pour se faire souffrir. Jeune, jeune, d'abord est-ce au calendrier que ça regarde l'âge d'une femme. Monsieur l'ambassadeur aurait peut-être des mécomptes. Et d'un geste vif à deux mains, écartant ses dentelles de nuit sur son cou rond, sans un pli, sa nuque solide et splendide. C'est là, voyons, c'est là que les femmes ont leur jeunesse. Oh, ça ne traîna pas. Des mains fougueuses et savantes, continuant son geste esquissé, peignoir à graffe, tout craquait, tout volait par la chambre, et prise, emportée, jetée au drap ouvert, une flamme passa sur elle en tourbillon, quelque chose de puissant, de doux, d'irrésistible, dont rien jusqu'à ce jour n'avait pu lui donner l'idée, qui la roulait, l'enveloppait, s'apaisait pour revenir, pour la reprendre, l'étreindre, l'engloutir encore sans fin. S'y attendait-elle en entrant ? Est-ce là, comme il dut le croire, ce qu'elle venait chercher ? Non, délire d'orgueil blessé, vertige de fureur, nausée, dégoût, toute la femme à l'abandon dans une nuit de naufrage, mais jamais rien de vil chez elle, ni de machiner. Maintenant, la voilà debout. Elle reprend possession d'elle-même et doute et s'interroge. Elle, ce jeune homme, est si vite, mais c'est à pleurer de honte. Et lui, dans ses genoux, soupire. Mais puisque je vous aime, puisque je vous ai toujours aimé, rappelez-vous. Et sur ses mains, et se communiquant à tout son être, elle sent de nouveau voleter courir ses bouleverses flammes en ondes. Mais un clocher sonne très loin, des rumeurs claires passent dans le matin. Elle s'arrache, se sauve éperdue, sans même vouloir emporter le dossier de sa vengeance. Se venger, mais de qui, pourquoi faire ? À cette heure, elle n'avait plus de haine, elle aimait. Et c'était si nouveau, si extraordinaire pour cette mondaine, l'amour, le plein amour, avec son délire et ses spasmes, qu'à la première étreinte, elle avait cru ingénument qu'elle allait mourir. Dès lors, un apaisement se fit en elle, une douceur convalescente qui changeait son pas et sa voix. Elle devenait une autre femme, une de celles dont le peuple dit en les voyant au bras d'un amant ou d'un mari, un peu lente et comme bercée, « Ah, voilà une qui a ce qu'il lui faut !» Le type est plus rare qu'on le pense, surtout dans la société. Il se compliquait ici de la tenue pour le monde, des devoirs d'une maîtresse de maison surveillant les départs, les arrivées, l'installation de la seconde série, plus nombreuse, moins intime, toute la gentry académique, duc de Courson-Launay, prince et princesse de Fitzroy, les de Sicourt, les Huchenard, Saint-Avol, prince et prince, monstre-ministre prénipotentiaire, Bozère et sa fille, monsieur et madame Henry de la légation américaine. Dure besogne, nourrir et distraire tous ces gens, fusionner ces éléments disparates. Eh bien, personne ne s'y entendait mieux qu'elle. Mais à présent, un ennui, une corvée. Elle aurait voulu ne pas bouger de place, ruminer son bonheur, s'absorber dans l'idée unique, et elle ne trouvait rien pour distraire ses invités que l'invariable visite au Verveux, au château de Ronsard, à l'orphelinat. Toujours contente lorsque sa main touchait la main de Paul, que le hasard des voitures ou des bateaux les rapprochait l'un de l'autre. Dans une de ces fastidieuses promenades sur la Loire, un jour que la flottille de Mousseau, ses tendelets de soie, ses pavillons aux armes ducales, en clair reflet papillotant, avait poussé plus loin que d'habitude, Paul Astier, dont l'embarcation précédait celle de sa maîtresse, assis à l'arrière près de l'arrivoire, écoutait les confidences de l'académicien. Autorisé à prolonger son séjour à Mousseau jusqu'à l'achèvement de son rapport, le vieux fou ne s'imaginait-il pas que sa cour était en bon chemin pour la succession de Samy, et comme elle arrive toujours en pareil cas, c'est à Paul qu'il racontait ses espérances, ce qu'il avait dit, ce qu'on lui répondait, ci et ça, et « Jeune homme, que feriez-vous à ma place ?» Un appel clair et sonore vibra sur l'eau venu de la barque qui suivait. « Monsieur Astier !»« Duchesse ?» Voyez donc là-bas, dans les roseaux, on dirait Védrine. Védrine, en effet, en train de peindre, sa femme et ses enfants près de lui, sur un vieux bateau plat, amarré à une branche d'aulne, le long d'une île verte où s'égosillaient des bergeronnettes. On s'approcha bien vite, bord à bord, tout étant distraction, on perpétuait l'ennui des gens du monde, et pendant que la duchesse saluait de son plus doux sourire Madame Védrine, qu'elle avait reçue quelque temps à Mousseau, les femmes regardaient curieusement ce ménage d'artistes, leurs beaux enfants pétris d'amour et de lumière, au repos, à l'abri dans cette anse de verdure, sur ce flot limpide et calme où se doublait l'image de leur bonheur. Védrine les salut fait, sans lâcher sa palette, donnait à Paul des nouvelles de Clos Jallange, dont la longue maison basse et blanche à toiture italienne se voyait à mi-côte dans les brumes du fleuve. « Mon cher, tout le monde est fou là-dedans. La succession de l'oisillon les tourmente et tourne en boule. Ils passent leur vie à faire du pointage. Tous, la mère, Picheral et la pauvre infirme dans son fauteuil roulant. Elle aussi a gagné la fièvre académique. Elle parle d'aller vivre à Paris, de donner des fêtes, des réceptions pour aider la candidature fraternelle. Alors lui, fuyant cette démence, s'escampait tout le jour, travaillait dehors avec sa smala, et montrant son vieux bachot, il riait sans l'ombre d'amertume. Madame Yé, tu vois, mon grand voyage sur le Nil. Tout à coup, le petit garçon, qui parmi tant de monde, de jolies femmes, des toilettes, n'avait Dieu que pour le père Lariboire, l'interpella d'une voix claire. Dites, c'est-il vous le monsieur de l'Académie qui va avoir 100 ans? Le vieux rapporteur, en train de faire des effets nautiques devant la belle Antonia, manqua s'effondrer sur sa banquette. Et le fou rire un peu calmé, Védrine expliquait le singulier intérêt que l'enfant portait à Jean Réhu, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, seulement à cause de ses 100 ans qui approchaient. Le beau petit s'informait chaque jour du vieil homme, demandait « Comment va-t-il? » Et c'était chez lui, ce tout petit être, un respect de la vie presque égoïste, l'espoir d'y arriver lui aussi à ses 100 ans, puisque d'autres les pouvaient vivre. Mais l'air fraîchissait, faisait flotter les voilettes de voyage, tout le pavoisement des petites flammes. Une masse de nuées s'avançait du côté de Blois, et vers Mousseau, dont les quatre lanternes au faîte des tourelles étincelaient sous le ciel noir, un réseau de pluie envoilait l'horizon. Il y eut un moment de hâte, de bousculade. Pendant que les barques s'éloignaient entre les bancs de sable jaune, toutes dans le même sillage à cause de l'étroitesse des chenaux, amusées par cet éclat de couleurs sous le ciel orageux, ces belles silhouettes de mariniers debout à l'avant, forçant sur leurs longues perches, Védrine se tournait vers sa femme à genoux dans le bachot, occupée à empaqueter les enfants, à serrer la boîte, la palette. Regarde ça, maman. Tu sais, quand je dis à un camarade que nous sommes du même bateau, la voilà bien visible et vivante, mon image. Toutes ces barques en fil qui se sauvent dans le vent, la nuit menaçante, ce sont nos générations d'art. On a beau se gêner entre gens du même bateau. On se connaît, on serre les coudes. On est amis sans le vouloir, sans le savoir, courant tous la même bordée. Mais ceux qui sont devant, comme ils s'attardent, comme ils encombrent, rien de commun entre leur barque et la nôtre. On est trop loin, on ne se comprend plus. Nous nous occupons d'eux que pour leur crier « Mais allez donc, avancez donc !» Tandis qu'au bateau qui nous suit, dont l'élan de jeunesse nous pousse, nous talonne, voudrait nous passer sur le ventre, on jette avec colère. Doucement donc, mais qu'est-ce qui vous presse? Eh bien moi, il dressait sa grande taille, dominait la rive et le fleuve. Je suis de mon bateau, certes, et je l'aime, mais ceux qui s'en vont et ceux qui viennent m'intéressent autant que le mien. Je les hais, je leur fais signe, j'essaie de me tenir en communication avec tous. Car tous, suivants et devanciers, les mêmes dangers nous menacent, et pour chacune de nos barques, les courants sont durs, le ciel traître, et le soir si vite venu. Allez, maintenant démarrons, mes chéris, voilà l'ondée.